Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
Les matins de France Culture. Quentin l'a fait.
Alors que la flamme olympique est arrivée hier à Marseille, on s'intéresse ce matin à la dimension sociale des Jeux olympiques et paralympiques, à celles et ceux qui ont travaillé sur les chantiers, à ceux qui travailleront pendant les Jeux olympiques. Pour en parler, je reçois ce matin Denis Gravouille. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire confédéral à la CGT et on entend beaucoup ces derniers jours que ces Jeux olympiques et paralympiques sont une chance pour l'économie française, une chance également pour les entreprises françaises. Quid des travailleurs ?
Ben on va voir si ce qu'il en est. Ben, je mets juste un tout petit mot de soutien à Guillaume Meurice, à l'équipe de Jean-Yves Van den Ecker et à toutes les personnes là qui sont remises en cause dans la liberté d'expression à Radio France en ce moment. Je sais qu'il y a un appel à la grève dimanche que la CGT et tous les syndicats de la maison soutiennent. Nous le soutenons entièrement.
Le mot est transmis.
Voilà. Alors concernant votre question, la question justement, ça va être de savoir qui va profiter des JO. Évidemment, nous on souhaite que les JO se passent bien, mais on ne souhaite pas que des gens qui travaillent au moment des JO ou pour les JO se retrouvent dans des situations compliquées. On a par exemple un décret qui prévoit qu'on va supprimer le repos hebdomadaire pour ceux qui vont travailler dans l'audiovisuel, dans certaines entreprises qui bossent avec les ordinateurs. C'est assez curieux de fonctionner comme ça, où des exemples de faux bénévolat commencent à arriver, par exemple.
Une charte sociale a été mise en place, pensée par les organisateurs des Jeux Olympiques. Une charte sociale qui, je cite, nous accompagne à chaque étape de la construction des Jeux et dans notre travail au quotidien. Fin de citation. C'est une première mondiale, cette charte. Qu'en pensez-vous ?
La charte sociale, on y a beaucoup contribué, notamment Bernard Thibault, qui est notre ancien secrétaire général. Mmh. Et justement, il a été tiré les leçons de ce qui s'est passé au Qatar ou autre, pour faire en sorte que, notamment sur les chantiers, ce qu'on appelle de la solidéo, c'est-à-dire tous les chantiers qui sont directement liés au JO, il y ait un travail pour qu'il n'y ait pas de mort sur les chantiers et qu'on réduise, et qu'on essaye d'empêcher l'ensemble des accidents du travail. Ça a en partie marché, puisque le nombre d'accidents du travail a été réduit, divisé par 4, et il n'y a pas eu de mort sur les chantiers des JO. Mais il y en a eu autour. Il y en a eu autour, par exemple, Amarat Dumassy qui est mort sur un chantier lié au réservoir pour permettre à la Seine d'être baignable. Ce qui s'est passé, en gros, c'est que on a pris des moyens pour l'inspection du travail, pour la prévention, et on les a déplacés sur les chantiers des JO, donc tant mieux, ça a permis d'éviter des accidents, mais on les a pris ailleurs. Donc ce que ça montre, c'est qu'on a besoin de moyens pour la prévention, mais pas seulement pendant les JO et seulement sur les chantiers des JO. Et c'est absolument inacceptable, un mort au travail, que ce soit sur les JO ou pas, évidemment.
Ça montre aussi, Denis Gravouille, qu'avec de la volonté politique, avec aussi des politiques publiques qui suivent en matière de travail, on est capable de réduire les morts et les accidents sur les lieux de travail.
Bien sûr, on a 4 morts par jour liés au travail, dont beaucoup sur des chantiers. Donc ça veut dire qu'effectivement, le seul moyen de le faire reculer, c'est des moyens de prévention et il faut arrêter, par exemple, de supprimer des postes dans l'inspection du travail. Il faut pourvoir tous ces postes et dans les moyens de prévention ou dans les budgets de prévention qui sont toujours bloqués. Hein. La ministre vient de nous promettre fin avril de les débloquer enfin. Ça fait un an que le chantage dure. Ben, on attend de voir et on veut que ce soit concrétisé et si possible, justement avant les JO.
Alors, on rappelle que cette charte sociale, elle rassemble 16 points qui concernent les conditions de travail sur les chantiers, les façons de recruter, la manière aussi d'allouer le travail et les tâches. Est-ce que cette charte sociale, même si elle est non contraignante pour les employeurs, laissera un héritage social au-delà des Jeux Olympiques et Paralympiques ?
Toute la question est de savoir si on va vraiment l'appliquer uniquement pendant les JO, pendant les chantiers des JO, ou de façon pérenne. C'est bien la question, puisque justement, le gros travail qui a été fait, c'est s'assurer de la prévention. On sait très bien que c'est ce qui se passe. Si on se prend justement le cas d'Amarat Dumassy, s'il a été écrasé par un camion, c'est qu'il n'y avait pas de caméra de recul, pas de personne chargée de vérifier qu'il n'y avait personne derrière le camion, et ça a été appliqué 10 jours après sa mort, malheureusement, sur ce chantier-là. Ce genre de choses, ça doit arriver pour les chantiers des JO. Évidemment qu'il y a une question d'image, donc on fait attention. Mais nous, on ne veut pas que ce soit seulement une question d'image. Il y a évidemment besoin que cette charte ou ces moyens soient appliqués sur tous les chantiers chantiers de façon pérenne, et que ce soit les chantiers des JO ou pas, il n'y a pas de raison de mourir au travail ou d'être blessé au travail. Et ça, ça justement, c'est une question, parce que on est plutôt dans des temps d'austérité budgétaire, on l'a vu avec les décrets qui font tomber 10 milliards, et justement, on voit très bien que les vies humaines coûtent sont une variable d'ajustement dans ne devraient pas l'être dans ces décisions qui sont absolument scandaleuses.
On sait que sur ces grands événements sportifs et les chantiers qui y sont liés, beaucoup de personnes sans papier régulièrement travaillent, sont associées au travail, notamment dans le domaine du BTP. Est-ce que là encore, la charte a permis d'effectuer quelques progrès en la matière ?
Il a fallu beaucoup pousser puisqu'il y a eu des batailles qui ont été menées pour faire régulariser des travailleurs sans papier. 500 ont été régularisés après des grèves organisées avec la CGT. Alors, c'était pas forcément uniquement lié au JO, mais c'était très récent. Certaines entreprises y étaient puisqu'on retrouve, par exemple, des sous-traitants dans le nettoyage ou autres qui sont beaucoup, à part avec le BTP, un autre secteur dans lequel des sans-papiers sont recrutés. Nous, on souhaite la régularisation de tous ceux qui travaillent et qui contribuent à la société. Et c'est bien, c'est pas dans l'air du temps avec l'extrême droitisation qu'on entend la loi immigration qui vient de passer, mais effectivement on continue de revendiquer le fait que une preuve de travail permette de se faire régulariser, et pour l'instant on n'en prend pas suffisamment le chemin sans des batailles comme celles qu'on a menées.
Le travail dans le cadre de la conception des Jeux Olympiques, c'est aussi le travail des volontaires. Plus de 45 000 volontaires et bénévoles viendront à Paris pour participer à ces Jeux Olympiques. Comment est-ce qu'on encadre ce travail-là, qui est quand même une zone grise? Ce ne sont pas des travailleurs salariés, ce sont des bénévoles, on le disait. Comment est-ce qu'on encadre cela?
Eh bien, c'est toute la question, c'est d'arriver à faire la part entre ce qui est vraiment du bénévolat, de gens qui sont fans de sport, qui sont dans des clubs sportifs, qui veulent participer au JO, et du travail qui doit être rémunéré, et parce que c'est du travail, par exemple, d'accueil, de nettoyage ou autre. Voilà, on a quelques doutes dans certains cas sur... on a par exemple appris que certains assistants des opérateurs vidéo seraient des bénévoles, alors que d'habitude, sur les matchs de foot, ou tous les événements sportifs, il y a des techniciens et leurs assistants sont des postes de gens qui ont bien besoin de travailler. Donc c'est ce genre de choses qui n'est pas acceptable. Il faut qu'il y ait un strict contrôle sur ce qui relève du bénévolat, de mouvements associatifs et sportifs qui ont légitimement envie de participer à la fête, et ceux qui doivent être rémunérés pour un travail qui fait partie du travail normal sur ce genre d'événement.
Dans ce cadre-là, travailleurs et bénévoles, est-ce que la CGT prend le parti des travailleurs et des bénévoles, ou il y a une confrontation même sous-jacente entre les deux groupes?
Nous, on cherche justement à ce que personne ne s'oppose les uns aux autres. Le milieu associatif, ça fait partie de l'éducation populaire. La question, c'est d'arriver à faire en sorte que ceux qui seraient des faux bénévoles soient défendus et permettent et l'occasion de rencontrer la CGT, parce qu'on va s'organiser pendant tous les JO pour faire en sorte qu'on puisse répondre à leurs attentes et les accompagner, y compris juridiquement s'il y a besoin, quand on constatera qu'il s'agit du travail salarié dissimulé.
Bon, quand on vous entend, quand on regarde également les chiffres en matière d'accidents du travail, on pourrait dire que ces Jeux Olympiques sont en somme une forme de progrès social s'agissant seulement des travailleurs. Pourquoi est-ce que la CGT continue, pour reprendre l'expression, de brandir la flamme de la colère dans les rues?
De toute façon, la flamme de la colère, elle existe. On l'a bien vu, la flamme de la colère après le mouvement des retraites de l'année dernière, où on nous a passé en force à coup de 49-3 une réforme qui était totalement minoritaire dans l'opinion et même dans le Parlement et même dans l'Assemblée nationale. C'est évidemment que la colère est là. Maintenant, la question que nous posons, c'est que fait-on pour des travailleurs qui vont avoir leur charge de travail augmentée ou modifiée pendant les Jeux Olympiques? Prenons par exemple les personnels de la santé. On sait très bien que l'afflux de touristes va avoir un impact sur les urgences médicales, dont on sait très bien dans les hôpitaux qu'elles sont déjà extrêmement tendues, et pour l'instant on a des gros doutes sur la capacité de notre service d'urgence à faire face à cet afflux, et notamment par manque de personnel, parce que c'est structurel. On a un problème de recrutement, on a un problème d'attractivité, de salaire des métiers, malgré quelques primes ou quelques avancées qui ont été obtenues. C'est un gros problème de recrutement, c'est un vrai problème de service public de l'hôpital qui est dégradé par les décisions budgétaires qui ont été prises depuis des années. Donc les JO devrait permettre de montrer à ce qu'on ait les urgences qui fonctionnent au moment des JO et de façon générale pour la population et qu'on n'ait pas les urgences qui ferment comme on connaît à différents endroits.
Alors si l'on parle justement des personnels de santé dans le cadre des Jeux Olympiques, l'assistance publique, hôpitaux de Paris, la PHP a besoin d'environ 800 équivalents temps plein supplémentaires pendant les Jeux Olympiques par rapport à un été dit classique. On sait par ailleurs que les étés dits classiques sont de plus en plus sous tension depuis plusieurs années. Comment la PHP s'organise-t-elle aujourd'hui pour permettre de faire face à cet afflux de patients?
Eh bien, on aimerait bien le savoir parce que sur tous les sujets qui sont liés au JO, nous avons demandé une table ronde, pas seulement sur la santé, mais particulièrement sur ce point-là, au Premier ministre. Nous attendons toujours d'avoir la date. Il semblerait que la date, il ait du mal à la trouver. Ça fait quand même quelques années qu'on sait que les JO vont arriver. Et au moins depuis quelques mois, on aurait pu se réunir. La date est encore incertaine, justement pour faire le point sur toutes ces questions d'organisation. Parce que pour l'instant, on a un grand flou en matière d'organisation, de planning, de travail pour les personnels de santé en particulier. Et de recrutement ou éventuellement de renfort qu'on pourrait prendre ailleurs, mais on ne sait pas où, parce que comme tous les services de santé sont déjà eux-mêmes sous tension, il y a beaucoup d'incertitudes là-dessus quelques semaines avant les JO.
Comment vous réagissez, Denis Gravouille, à la volonté, le souhait du président de la République exprimé mi-avril, je le cite, oui à la trêve olympique en matière sociale?
C'est assez curieux parce que les libéraux, ils ont tendance toujours à vouloir dire que les salariés doivent se taire sur leurs conditions de travail quand il y a des grands événements, quand il y a des départs en vacances et autres. Mais c'est justement à ce moment-là où on leur demande le plus d'efforts parce que évidemment c'est le moment où il y aura beaucoup plus de monde. Donc trêve olympique, qu'ils entendent d'abord que nous demandons des concertations, nous demandons du dialogue de façon à ce qu'on réponde aux questions et ça. Je lui renvoie la balle sur le fait qu'on attend toujours qu'il s'organise un peu mieux et qu'il prenne en compte la parole des salariés. Ça peut être dans d'autres champs de la fonction publique. On a des personnels qui sont, par exemple, à qui on a dit puisque c'est les JO, vous n'aurez pas vos congés comme il est prévu de les prendre. Les employeurs.
Dans quel domaine, par exemple?
Par exemple, dans la fonction publique, puisque dans tous les départements qui vont être concernés par les JO, il y aura besoin de personnel d'accueil, il va falloir beaucoup plus de monde. Ou dans la santé, encore une fois, on leur a dit les vacances ce sera après les JO voire après les jeux paralympiques. Tout le monde aussi a droit à une vie de famille, donc on demande des efforts à des personnes qui ne vont pas pouvoir prendre leurs vacances au nom des JO, mais le bénéfice il va à d'autres.
Est-ce que les Jeux Olympiques c'est aussi l'opportunité collective de transformer encore un peu plus le rapport au travail, notamment pour mettre en lumière quelques fonctions, quelques métiers, quelques professions dites essentielles?
Oui, alors, justement, ça aurait pu être l'occasion de se dire comment on organise le travail autrement, mais je l'ai déjà cité, le fait de supprimer le repos hebdomadaire pour certaines personnes qui vont travailler 3 semaines d'affilée, c'est certainement pas un progrès. Le fait d'encourager le travail le dimanche, ce qui n'est pas la même chose que la suppression du repos hebdomadaire, c'est aussi un autre progrès sur lequel il n'y a pas eu une autre régression, justement, telle que qui n'a pas été encadrée suffisamment. On a d'ailleurs des contestations sur certains décrets en cours. On verra bien si la justice se prononce avant les JO. C'est toutes ces questions-là, en fait. En gros, pendant le temps de préparation, on a eu la charte sociale, ça fonctionne. Puis maintenant que là, on se met à arriver devant les échéances, ça, c'est un petit peu oublié. Prenons l'exemple du stade dans lequel devrait avoir l'équitation à Versailles. On se retrouve à avoir une inspection du travail qui, heureusement, interrompt le chantier parce qu'il y a des questions de sécurité qui ne sont pas remplies.
On va poursuivre cette discussion avec vous, Denis Gravouille, secrétaire confédéral à la CGT. On va parler des nombreux préavis de grève qui ont été déposés. Ce sera à partir de 8h20.
6h30, 9h, les matins de France Culture, Quentin Lafay.
Et alors que la flamme olympique est arrivée hier à Marseille, on s'intéresse ce matin à la dimension sociale des Jeux Olympiques et Paralympiques, à celles et ceux qui ont travaillé sur les chantiers, à ceux qui travailleront pendant les Jeux. On en discute avec Denis Gravouille, il est secrétaire confédéral à la CGT. Et Denis Gravouille, on sait depuis plusieurs années que sur ces grands événements sportifs, dans le cadre de l'organisation de ces grands événements sportifs, on pense à Athènes en 2004, à Londres en 2012, à Rio en 2016, l'organisation des Jeux est un moment peut-être plus favorable pour les organisations syndicales, pour les syndicats de travailleurs, pour faire valoir quelques idées, pour avancer quelques revendications. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que le pouvoir de négociation est un peu plus en votre faveur.
La question, c'est surtout de savoir comment on va répondre aux besoins des personnes qui sont concernées. Alors effectivement, quand il y a un gros événement, c'est l'occasion de dire, enfin surtout les salariés qui sont concernés disent, on veut être entendu. On veut être entendu dans le commerce, dans les services publics, on en a parlé tout à l'heure pour ce qui est de la santé par exemple. Donc forcément, c'est plutôt comme ça que ça se présente. Hein. C'est pas tellement qu'on ait décidé, tiens, il y a un gros événement, tiens, on va mettre la pression. C'est la demande de la base de se dire, mais nous, on nous demande de travailler plus ou de renoncer à nos congés, on voit que les policiers ont obtenu une prime et nous, on l'a pas obtenu dans la santé, c'est ce qui s'est produit à un moment. Voilà, c'est normal que les salariés concernés se disent, mais on a besoin de bouger et c'est pour ça qu'on a demandé des tables rondes, qu'il y a eu des préavis déposés dans certaines professions, mais toutes les professions ne sont pas soumises à préavis, dans les transports, dans la fonction publique territoriale et dans différents endroits, parce que c'est la demande, c'est de négocier pour obtenir qu'on écoute les salariés concernés.
Mais on ne peut pas nier que dans le même temps, la force de la grève, l'impact de la grève n'est pas le même qu'en des temps normaux. Aujourd'hui, on sait très bien que le monde va regarder la France, son fonctionnement, son organisation. Et vous disiez vous-même un peu plus tôt dans notre discussion que les Jeux Olympiques étaient aussi le moment, l'opportunité peut-être de faire valoir des revendications au-delà des Jeux.
Bien sûr, la question c'est d'arriver à faire en sorte que on respecte que les Jeux Olympiques soient pas l'occasion de tester des nouvelles conditions de travail défavorables aux salariés. Donc nous on dit attention, les personnes concernées doivent être protégées, que ce soit pendant les Jeux et ailleurs. Et effectivement, les personnes concernées sont déjà en mouvement pour certaines en disant écoutez-nous, c'est ça la question. La grève c'est le dernier moment quand on n'a pas été entendu. Il faut quand même le dire, c'est ce qui s'est produit à chaque fois. On ne fait pas grève pour le plaisir de faire grève, même si parfois ça peut être festif, mais ça fait perdre déjà du salaire, déjà. Dans ces temps où les salaires sont déjà beaucoup trop bas pour beaucoup de monde, c'est pas un jeu. Mais par contre, c'est un outil qu'on utilise à un moment donné pour se faire entendre. Et c'est bien ce qui pêche dans le fait que ce gouvernement est en train d'avancer à toute vitesse en se rapprochant, en disant, écoutez, faites la trêve, on verra après. Non, c'est le moment de régler les problèmes maintenant.
Alors, de nombreux secteurs sont concernés présentement par des préavis de grève, les transports, les éboueurs, les policiers, peut-être aussi la PHP. Si on devait faire un paysage de ces préavis de grève avec vous, Denis Gravouille, quel est-il aujourd'hui ?
C'est à peu près les secteurs que vous avez cités. Effectivement, il y a des préavis de grève. De toute façon, les préavis de grève n'existent que dans les services publics. Les préavis peuvent exister dans les transports, dans la santé, du côté de la fonction publique et par exemple de différentes professions. Je pense à un exemple. Nos collègues égouttiers vont être extrêmement mis à contribution pour s'assurer que la Seine soit enfin baignable pour les épreuves de natation. On sait que c'est un enjeu assez sensible. La mise à contribution en plein été nécessite qu'on les écoute sur des conditions, alors qu'on sait que c'est un métier qui est extrêmement pénible. La durée de vie, l'espérance de vie des égouttiers à la retraite, elle est beaucoup plus faible que beaucoup d'autres professions. Donc c'est évidemment là il y a besoin de renfort, il y a besoin d'écouter les salariés pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions de travail et participer à faire en sorte que le travail soit correctement fait.
Alors entrons avec vous dans le détail de ces professions et des revendications de ces professions. Commençons par la SNCF. Diverses primes pour les Jeux Olympiques et Paralympiques ont déjà été acquises, notamment une gratification journalière de 50 euros, une prime de 300 à 500 euros pour les cheminots qui déplaceraient leur congé. Comment est-ce que la CGT analyse ces nouveaux acquis sociaux et ces primes ?
Il y a eu des accords corrects. Je pense que là, actuellement, les discussions sont très fortes avec la base pour savoir si c'est suffisant. Bon, il semblerait que beaucoup des syndicats, tous les syndicats de la SNCF aient signé les accords. Donc, c'est plutôt... ça veut dire que c'est plutôt bien pris. Tant mieux si ça répond aux revendications. Mais encore une fois, vous l'avez cité, c'est parce que des personnes ont été obligées de repousser leur congé et tout le monde a besoin de se reposer l'été que les revendications étaient justes. Et c'est pour ça que dans ce domaine-là, ça avance. Alors du côté SNCF, il y a des questions qui sont liées à l'Île-de-France avec un préavis pour le 21 mai. Comme vous le voyez, c'est avant les JO parce qu'il faut qu'on ait les réponses avant. Les salariés sont pas forcément en train de se dire qu'ils vont faire faire bloquer pendant les JO, mais par contre, il faut avoir des réponses de façon à ce qu'on ait des bonnes conditions au moment où on sera dans le vif du sujet.
Qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux, je pense notamment à certains économistes, à certains responsables politiques aussi, un terme revient souvent, ces primes, ces revendications sont irresponsables pour les citer parce qu'elles accroissent la dette publique, notamment puisque c'est in fine l'État qui paye ce que la SNCF va devoir rémunérer à ses agents. Comment est-ce que vous réagissez à cela ?
C'est évidemment scandaleux de dire ça, puisque de toute façon, le travail, il est fait par ceux qui ont obtenu notamment les primes. La question des salaires, qui fait le travail? Qui produit les richesses? Ce sont les salariés, ce sont ceux qui sont au travail. Qui produit la réponse aux besoins en matière de services publics? Ce sont justement les agents des services publics. Bon, le gouvernement tombe, par exemple, sur un accord qui a été trouvé à la SNCF en convoquant le PDG et en signifiant qu'il ne sera pas reconduit, mais on ne l'a pas entendu dire un mot sur Carlos Tavares qui touche 36 millions d'euros. Je ne sais même plus combien, j'ai même pas en tête le nombre de SMIC que ça représente par jour, que ce monsieur gagne tout en continuant à ne pas augmenter les salaires dans les entreprises concernées et à ne pas partager les richesses. Donc c'est évidemment ce monde-là dont nous ne voulons pas, un monde de plus en plus inégalitaire. On le revendique au moment des JO et avant ou après.
Au-delà de ces Jeux Olympiques, un accord a été passé avec la direction de la SNCF et prévoit la création d'un échelon d'ancienneté supplémentaire pour améliorer le salaire des cheminots en fin de carrière et des mesures de retraite anticipées pour certaines professions répondant aux critères de pénibilité comme les conducteurs ou les contrôleurs. Comment est-ce que, là encore, vous jugez, que vous estimez cette mesure ?
C'est un très bon accord et on appelle à ce qu'il y ait des négociations qui se passent partout pour les généraliser, puisque c'était exactement ce qui était demandé pendant la bataille contre la réforme des retraites, c'est qu'on puisse partir plus tôt quand on est concerné, notamment par des conditions, d'abord que tout le monde puisse partir beaucoup plus tôt que 64 ans et même nous revendiquons la retraite à 60 ans, mais qu'on puisse partir plus tôt quand on est confronté à des conditions de travail pénibles. Les conducteurs de train, par exemple, regardez un peu leur planning et constater que des personnes travaillent de jour comme de nuit, c'est déjà compliqué quand on est jeune, mais quand on arrive à un certain âge, c'est encore plus difficile. D'ailleurs, ça devrait même poser des questions, on a intérêt à y faire attention pour des questions de sécurité. Donc, c'est un très bon accord et c'est assez incroyable qu'on entende toute la droite hurler contre cet accord, alors que justement, il a été correctement négocié et qu'il devrait faire des émules à notre sens dans d'autres branches.
Est-ce que dans ce cadre-là, Denis Gravoux, dans le cadre de ce très bon accord, pour vous citer, on peut avoir la certitude qu'il n'y aura pas de grève de la SNCF pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques ?
Eh bien, on n'aura pas de certitude, mais en tout cas, c'est une bonne chose d'avoir des accords qui permettent de prendre en compte les besoins en question. Et par ailleurs, il y aura peut-être d'autres besoins concernant au moment des Jeux Olympiques. S'il n'y a pas d'effectifs suffisants et que les personnes sont sous pression, c'est tout de suite que les salariés demanderont à travailler. On peut citer, par exemple, la RATP aussi, où on sait qu'il va y avoir une pression considérable. On voit déjà, quand on prend le métro parisien, les stations qui seront fermées. Ça va être un moment particulier, donc il y a intérêt à être bien organisé et à faire en sorte que toutes celles et ceux qui sont là ne soient pas épuisés par l'afflux de passagers supplémentaires.
Est-ce que vous savez si ce très bon accord a coûté la place au patron de la SNCF ? On a appris que Jean-Pierre Farandou ne verrait pas son mandat renouvelé.
Il semblerait que quand un patron négocie un bon accord avec les salariés, il soit mal vu à Bercy. Les mauvais accords ou l'absence d'accord, là par contre, c'est très bien vu. Enfin, on a un gouvernement qui est unilatéralement du côté des intérêts, des mauvais intérêts patronaux. Et ça, c'est vraiment déplorable. C'est bien pour ça qu'on se retrouve à avoir des sanctions. Jean-Lémarie parlait des européennes. Ce qui fait progresser le Rassemblement National, c'est d'une part une ambiance xénophobe que nous dénonçons, mais d'autre part, des espérances par rapport au niveau des salaires, au niveau des pensions, des petites pensions de retraite, pour lequel ou du RSA. Et c'est là-dessus qu'il faut arriver à changer la donne, et notamment en matière de salaire.
Vous évoquez également un peu plus tôt dans notre discussion les conducteurs de métro et de RER de la RATP. Qu'ont-ils obtenu là encore en matière sociaux ?
Alors, on va pas rentrer dans les détails de leur accord, mais effectivement, il y a eu des primes qui ont été obtenues et des augmentations de salaire, la prise en compte des évolutions de carrière. Donc, là aussi, c'était nécessaire puisque, de toute façon, on a un réseau qui a complètement changé en augmentant le nombre de lignes et en changeant aussi le mode de travail. On sait qu'il y a moins de conducteurs, il y a des lignes automatiques. Donc, c'est aussi ce genre d'accord qui prend en compte l'évolution du travail qui a été passé. Alors là, j'ai moins de détails sur ce qui a été obtenu, mais la question, évidemment, ne résout pas tout sur l'afflux qu'il va y avoir, l'augmentation de travail qu'il y aura pendant les JO.
Ce qui justifie à chaque fois ces primes, ces augmentations de salaire pour un temps, et notamment durant le temps des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est l'augmentation du temps de travail, ainsi que peut-être la transformation de l'organisation du travail d'une façon ponctuelle. Pourquoi la CGT, dans ce cadre-là, et à travers cette optique, ne soutient-elle pas les policiers pour qui, de la même façon, le temps de travail va augmenter pendant les Jeux Olympiques?
Ah, on a soutenu le fait que les agents, tous les agents publics et les policiers en particulier, soient correctement traités pendant les Jeux Olympiques ou ailleurs. Hein,
la CGT, par exemple, ne soutient pas présentement la grève des policiers municipaux de la ville de Paris.
Il y a eu on est moins fort chez les policiers municipaux, ça c'est clair. J'ai pas les détails de pourquoi est-ce que il n'y a pas eu de soutien. La question, c'est une question d'équilibre. Je pense que ce qui a été décidé, c'est qu'on ait une organisation du travail qui tienne compte de toutes les catégories. Souvent, les revendications catégorielles sont plus difficiles à entendre. Il faut que ce soit juste. Il faut que, évidemment, les policiers municipaux soient bien traités, mais que ce ne soit pas les seuls. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il y a eu des divergences de positionnement par rapport aux policiers municipaux.
Les revendications catégorielles, pourtant, c'est bien le cas dans les transports et dans la façon dont vous conduisez des préavis de grève dans les transports.
Oui, mais il faut l'articuler avec l'ensemble des agents de la fonction publique de la mairie de Paris. Et je ne sais pas exactement ce qu'il en est pour les policiers municipaux, mais évidemment, on soutient le fait que tout le monde soit bien traité en équilibre, sans donner aux uns pour prendre aux autres. C'est la question d'arriver à trouver, par exemple, qu'on n'oppose pas les égoutiers ou les policiers municipaux.
En matière sociale, Denis Gravouille, quel est l'enjeu, quels sont les enjeux dans le cadre de la préparation sociale des Jeux Olympiques dans le secteur privé cette fois? Commençons peut-être par l'hôtellerie et la restauration. Là, quels sont les enjeux?
Ce sont des secteurs dans le secteur privé ne sont pas soumis à préavis. On sait que les professions qui vont être le plus sollicitées vont être les hôtels, cafés, restaurants. Ça va être parmi ceux qui vont être extrêmement sollicités. Bon, la grosse question, c'est les salaires et la précarité. Ce sont des secteurs dans lesquels il y a des recours à des contrats courts et très mal payés souvent dans ce domaine-là. On voit que certains se frottent les mains à voir arriver un afflux de touristes qui vont dépenser beaucoup d'argent en région parisienne en particulier, en France en général. Il est absolument normal que cet argent serve à rémunérer les salaires des personnes concernées. Or, ce qu'on voit pour l'instant, c'est que on nous dit qu'on va travailler le dimanche, qu'on va supprimer le repos hebdomadaire pour certains, et on ne voit pas arriver les augmentations de salaire ou les primes, ou on préfère les augmentations de salaire aux primes, d'un grand nombre de salariés, où au contraire, on nous dit qu'on va prendre des travailleurs saisonniers, ponctuels, pour travailler sur toutes les installations dans les hôtels, cafés, restaurants. Donc là-dessus, évidemment, il y a des revendications dans ce domaine-là qui ne seront pas soumises à préavis, mais on va accompagner tous les salariés. Puis par ailleurs, on a comme déjà quelques exemples de personnes qui seront des faux bénévoles à qui on va dire vous venez faire du bénévolat, mais en réalité qui devraient être salariés. Donc ça, c'est toutes ces personnes-là qu'on va accompagner avant et pendant les Jeux.
Pour bien comprendre ce que vous dites, dans le secteur de l'hôtel et de la restauration, il n'existe pas aujourd'hui d'assurance, d'engagement quant à la répartition des bénéfices pendant les Jeux Olympiques?
Pour l'instant, il n'y a pas eu d'accord particulier. Il y a eu des négociations dans les conventions collectives et pour l'instant, on sait très bien que c'est des domaines dans lesquels les salaires n'augmentent pas dans ce domaine-là. Donc, on a le sentiment qu'un certain nombre de personnes vont faire des profits plus ou moins considérable, et que pour autant, produit par le travail de ceux qui auront plus de boulot, qui auront des établissements pleins, et on ne voit pas les augmentations de salaire arriver dans les prévisions d'embauche.
On a parlé de l'hôtellerie et de la restauration. Quel est l'enjeu cette fois dans le domaine des commerces? Là, beaucoup de commerces seront ouverts, et notamment ouverts le dimanche à Paris. Là encore, quel est l'enjeu?
Et avec des horaires sans doute extrêmement, des amplitudes d'horaires qui vont être très importantes. Donc là, c'est pareil. On fait travailler des gens le soir tard, le week-end et autres. Et on sait par exemple que quand on prend des familles monoparentales qui sont à 80% des femmes avec des jeunes enfants, ça pose des problèmes de garde, ça pose des problèmes de transport. Là, ça va être particulièrement compliqué. Ce sont des métiers qu'on ne peut pas télétravailler. On nous encourage à faire du télétravail dans les métiers de service, mais et puis des gens seront en vacances. En l'occurrence, dans les commerces, il faudra bien qu'il y ait un accueil physique. Et c'est toutes ces questions-là où on voit un grand nombre de travailleurs, et notamment de travailleuses précaires, qui risquent d'être dans des situations assez compliquées. Donc là-dessus, évidemment, ça veut dire des embauches, des personnes en nombre suffisant, des salaires qui sont à la hauteur. C'est notamment, prenons les exemples des femmes de chambre dans les hôtels. On sait que ce sont des métiers particulièrement pénibles. Quel est-il prévu dans les hôtels qui vont faire des bénéfices considérables pour augmenter les équipes, pour que le travail ne soit pas encore plus pénible?
Pour bien comprendre la position de la CGT, vous ne vous opposez pas aujourd'hui à l'ouverture de ces commerces le dimanche?
Nous, le travail du dimanche, on s'y est opposé de façon à demander à ce qu'il soit limité. Alors, on peut comprendre que pendant les JO, il y a une partie qui soit ouverte, mais à condition que ce soit strictement encadré et avec les primes, les augmentations de salaire qui vont avec, ce qui n'est pas toujours le cas.
Dans le cadre de ces préavis de grève multiples, une proposition de loi a été votée au Sénat, une proposition de loi visant à restreindre le droit de grève dans les transports durant certaines périodes. Elle a été adoptée en première lecture le 9 avril dernier. Une réaction quant à ce texte?
C'est une vieille lune de la droite, des libéraux, de remettre en cause le droit de grève qui est un droit constitutionnel. Il faut rappeler que le droit de grève, c'est le moyen de s'organiser pour rééquilibrer un tant soit peu un pouvoir qui est déjà déséquilibré. Le patronat, les employeurs ont un pouvoir considérable. C'est eux qui décident par exemple des dates de congé. C'est pas les salariés qui décident de prendre leur congé quand ils veulent. On le voit avec les JO, ça revient, cette question-là. Ça bouscule les possibilités de s'organiser en famille, par exemple. Donc, le droit de grève, c'est un droit de grève, c'est un droit constitutionnel, c'est un droit qui permet à s'opposer. On perd son salaire, c'est toujours une difficulté, mais le restreindre, c'est évidemment renforcer le pouvoir déséquilibré au profit du patronat, et c'est évidemment nous opposerons à ce qui soit encore détruit, mais pour l'instant, à quelques exceptions près d'encadrement, dans une société démocratique, on n'a pas réussi à remettre en cause le droit de grève. Les seuls qui l'ont interdit sont les régimes dictatoriaux.
Est-ce que, Denis Gravouille, cette situation sociale, la préparation sociale des Jeux Olympiques et Paralympiques permet d'illustrer que le front commun qui a vu jour notamment pendant les manifestations contre les retraites, pendant le mouvement contre la réforme des retraites, ce mouvement commun entre la CGT et la CFDT, est-ce que ce front-là a perduré ?
CGT, CFDT et l'ensemble de l'intersyndicale qui continue à se parler, effectivement, à se parler des réformes du gouvernement, mais on est face à un gouvernement qui ne veut entendre aucun syndicat. Et les syndicats se parlent, alors avec des divergences, avec des positions plus ou moins d'accord, mais on arrive à s'exprimer très souvent sur différents sujets. On l'a fait il n'y a pas très longtemps pour réclamer des moyens, justement, on parlait d'accidents du travail, maladies professionnelles, pour que enfin cesse un chantage sur les budgets qui permettent d'obtenir des préventions dans ce domaine-là. On va le faire, on l'a déjà fait sur la réforme de l'assurance chômage que le gouvernement est en train de préparer juste avant les JO, là, comme par hasard, parce que bon, il y a un problème de calendrier au 1er juillet, et on nous annonce encore des restrictions de droits avec un acharnement thérapeutique sur l'assurance chômage depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. On va s'exprimer en commun parce que c'est encore une fois des baisses. On a un gouvernement qui est unilatéralement, alors c'est pas l'Argentine en termes de libéralisme, ce point-là, mais enfin, l'inspiration des fois est pas loin, puisque en l'occurrence, c'est une remise en cause des droits sociaux. On a plus que plus qu'une personne sur trois qui est indemnisée d'assurance chômage, et parmi ceux qui sont indemnisés, l'une moitié qui est en dessous du seuil de pauvreté. Donc c'est là-dessus, encore une fois, qu'on s'accorde pour batailler, pour empêcher qu'on tape encore sur les plus faibles.
Si je vous pose la question, Denis Gravouille, c'est parce que la CFDT semble un peu moins à l'initiative dans les préavis de grève qu'on a mentionnés plus tôt dans notre échange.
Oui, parce que évidemment, la CGT est particulièrement motrice sur les questions de préavis de grève et autres, mais ça n'empêche que l'unité syndicale, qui est parfois difficile dans différents endroits, elle reste depuis la bataille sur les retraites, parce que il y a des attaques qui sont communes. On revendique en commun une amélioration des services publics, on revendique en commun une amélioration de la protection sociale, et ça permet de continuer à se parler face à un gouvernement qui fait le contraire et qui encourage les espérances et le vote d'extrême droite contre lequel aussi on s'est unis à plusieurs reprises entre syndicats.
L'actualité sociale, Denis Gravouille, c'est aussi l'assurance chômage et la réforme de l'assurance chômage. Le gouvernement va définir par décret les nouvelles règles d'indemnisation valables dès cet été, après une courte concertation avec les partenaires sociaux. Une réaction là aussi quant à cette décision, et peut-être aussi sur la façon dont cette discussion sociale a été menée.
Pour l'instant, elle n'a même pas été menée. Pour l'instant, on est invité à des rendez-vous. On a eu une rencontre avec la ministre du Travail et on nous annonce des rendez-vous dans la fin mai pour nous présenter ce que le gouvernement aura décidé.
Donc, il y a eu quand même un début de concertation tripartite, ne serait-ce que pour discuter.
Il y a eu une négociation qui s'est achevée en novembre par un accord que nous, on trouve mauvais, qui avait déjà des baisses de droits. Mais ce n'est pas assez pour le gouvernement qui annonce qu'il faut taper encore plus fort. Donc, c'est effectivement, il y a eu une discussion sur ce que devait être la position du gouvernement. Et le gouvernement dit « Ah bah cet accord n'est pas bon, mais donc on va faire pire ». C'est en gros, pour résumer ça, on va faire pire et on annonce un décret. On apprend par la presse que c'était déjà prévu avant, depuis le mois d'août, au bout du mois de septembre. Donc en gros, il y a une nouvelle vague pour baisser les droits des chômeurs, sauf que ça ne passe pas dans l'opinion. À chaque fois que Gabriel Attal s'est exprimé sur le sujet, on a compris que quand ça devient concret et qu'on se rend compte qu'on ne va plus avoir qu'un an de durée d'allocation chômage, il faut juste savoir que 20%, même des cadres, mettent plus d'un an à retrouver du travail quand on a perdu, quand on a été licencié. Et en ce moment, on voit une vague de licenciements arriver, des plans sociaux qui se préparent d'ici la fin d'année. Les prévisions sont assez pessimistes là-dessus. Donc c'est certainement pas le moment, c'est jamais le moment pour nous, mais en tout cas pas maintenant, de baisser les droits au chômage, et on va tout faire pour l'empêcher.
Merci beaucoup, Denis Gravouille. Je rappelle que vous êtes secrétaire confédéral à la CGT. Merci d'être venu au micro de France Culture évoquer la préparation sociale des Jeux Olympiques et Paralympiques.
France Culture invente le manga audio. Épique, comique, parfois gore et même
kawaii.
Dorwido vous emmène dans une aventure sonore pleine de monstres et de magie. Aiden, un orphelin de 14 ans, voit son existence bouleversée lorsqu'une araignée géante attaque son village.
C'est l'histoire d'un garçon qui se transforme en monstre et qui détruit tout son village. Ça te dit un truc ?
Dorwido, une série originale écrite par Ellie Oliven et réalisée par Christophe Hocquet.
J'ai envie de voyager.
À dévorer sur franceculture.fr et l'appli Radio France.